Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'Opinion, comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Toujours là.
Et alors, nous avons non seulement des sujets à vous présenter, mais nous avons aussi, cette fois-ci, un objet à vous présenter. C'est ce livre, donc cessez de vous faire avoir. Alors, ce livre, il faut savoir que les clients de l'Université de l'Épargne ont pu l'avoir en avance en format lecteur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient le lire sur le site. Et donc, ils pouvaient l'avoir avant le commun des mortels. Et aujourd'hui, vous pouvez le commander, vous pouvez aussi peut-être l'avoir en librairie, il y a eu 3000 commandes en librairie, donc voilà.
Sur Amazon aussi.
Sur Amazon aussi, voilà, évidemment. Donc vous pouvez l'avoir de plusieurs manières différentes. Et alors c'est un objet qui est vraiment très sympa, parce que en dehors du texte, alors moi j'avais lu le texte du coup en format PDF cet été, voilà, déjà j'avais trouvé ça très limpide et vraiment très facile à comprendre. Mais alors en plus, là il y a vraiment des très très bonnes présentations. Et alors en couleur avec des graphiques et tout. Là, vous avez les fameux 4 cadrans. Si vous connaissez pas encore les 4 cadrans,
si vous avez pas écouté.
Voilà, c'est que vous avez pas assez écouté ou vous êtes vraiment pas client de l'Université de l'Épargne. Enfin voilà, c'est vraiment bien présenté. C'est un bel objet. Il y a eu un gros effort de mise en page. Là, vous pouvez voir des graphiques en couleur ici. Je vais pas vous montrer le graphique parce que pour ça, il faut acheter le livre ou être client sur l'Université de l'Épargne. Voilà, c'est faut savoir que le livre est sorti, il est disponible, voilà, sur les éditions Pierre de Taillac, sur Amazon, il est peut-être chez votre libraire, ou du moins vous pouvez demander à votre libraire de le commander.
Voilà. Donc, et alors, voilà. Si vous voulez, il m'amuse, parce que ce livre, d'abord c'est moi qui l'ai écrit, j'ai bien rigolé en l'écrivant, mais surtout, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quoi, 55 ans que je fais ce métier, et je sors donc 60 ou 70 pages, allez, avec des graphiques. C'est ce que j'ai tiré de 55 ans d'expérience, quoi, vous voyez. Donc pour moi, c'est un objet qui est plein de modestie, parce que si après une vie de travail, tout ce que vous réussissez à produire, c'est 55 pages, c'est... Mais enfin, j'espère qu'elles sont claires et j'espère qu'elles vont vous aider. Et surtout, le but essentiel de ce livre, c'est que les gens aient une espèce de crainte révérencieuse de l'argent et de la gestion de l'argent.
Oui.
Ils se disent c'est quelque chose qui est réservé à une élite.
Oui, oui, tout à fait.
Vous apprenez ça dans votre famille, mais moi j'y connais rien. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Et ça, c'est pour vous expliquer que c'est des fiches de cuisine de L. Vous pouvez réussir le gratin dauphinois.
Hein. C'est un peu le paradoxe, c'est que techniquement vous auriez peut-être pu faire un ouvrage 4 fois plus long, mais déjà ça vous aurait pris plus de temps.
Et puis ça aurait pas ajouté.
Voilà, mais
l'essentiel, là.
Comment dire, les gens qui ne connaissent pas suffisamment, qui ne s'intéressent pas suffisamment à la gestion de leur propre épargne, etc., auraient pu avoir peur d'un ouvrage comme ça, parce que ça fait un peu peur les trucs qui font 800 pages. Nous, on n'y connaît rien, on se dit qu'est-ce que je vais faire de ça. Donc, il faut au moins commencer par là.
Et il y a des fiches comme des fiches de cuisine. Alors, par exemple, je fais une fiche sur ce que c'est qu'une obligation. Puis je fais une fiche sur l'or, et puis ça fait 2 pages. Donc si vous voulez simplement savoir l'or, ben vous avez 2 pages à lire. Et puis en plus, quelques temps après, je décris ce qu'est l'or, et puis je fais une autre fiche sur le rôle de l'or dans le marché financier, qui fait aussi 2 pages. Donc si vous vous intéressez à l'or, vous pouvez lire 4 pages.
Ouais.
Ce qui est beaucoup, hein. Ça vous prendra un mois, mais quand même, c'est pas tellement, quoi. C'est à la portée d'un lecteur moyen, quoi.
C'est à la portée d'un lecteur moyen. Moi, je
l'avais lu. Comment s'appelle celui qui sait pas lire, qui était à l'Assemblée, là?
C'est
du buffet, non,
c'est de l'ogu.
De l'ogu. Voilà, c'est. J'ose espérer que même Monsieur de l'ogu comprendrait ce que j'ai mis là-dedans.
Alors ça peut être intéressant, surtout que avoir 2-3 notions quand même de finances quand on s'occupe du projet de loi de finances de cette année, ça peut être utile éventuellement.
Être utile, voilà.
Parce que justement, ça va être le sujet du jour, le projet de loi de finances. Alors quand on enregistre, on est le mardi 22 octobre, donc il faut aussi remettre des choses dans leur contexte, parce que les choses vont vite, et puis il y a plein de choses qui sont annoncées dans la commission des finances et qui derrière n'aboutissent pas. Par exemple, vous avez dû entendre parler la semaine dernière de tout un tas de mesures, notamment tout ce qui était augmentation de la flat tax de 30% à 33%. Ils voulaient augmenter la flat tax jusqu'à 37,2 je crois pour les revenus au-dessus de 250 000 euros. Donc là pareil, ils avaient inventé le concept de la flat tax progressive, c'est-à-dire que ce n'est pas une flat tax, puisque la flat tax, la définition c'est qu'elle n'est pas progressive.
Voilà, je vais vous arrêter tout de suite. Le principe de la flat tax, c'est qu'il faut que l'impôt soit proportionnel à vos revenus.
Voilà, c'est pareil pour tout le monde.
C'est pareil pour tout le monde. Mais alors si vous faites maintenant un truc progressif, ça redevient ce que ça a toujours été, c'est-à-dire une façon de punir ceux qui réussissent, quoi.
Voilà, exactement.
Donc c'est pas, ça aide pas à combler le déficit budgétaire, quoi.
Voilà, tout à fait. Et bon, alors tout ça, ça a été rejeté en bloc ce samedi par la commission. Donc c'était essentiellement des mesures proposées par le NFP. Donc fort heureusement, elles ont été rejetées. Mais enfin, on n'est quand même pas à l'abri de certaines mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, je voulais parler. Alors déjà, je voulais commencer par le Rassemblement National. Parce que bon, le Rassemblement National, c'est pas pour moi, c'est pas le pire parti politique de la République actuelle, mais il y a quand même deux trois choses qui vont pas. Alors, je voudrais faire un petit tour d'horizon de quelques trucs qu'ils proposent. On va commencer avec ce qui va à peu près. Alors, ils proposent déjà une baisse de la TVA sur l'énergie.
Pourquoi pas ? Moi, je faisais ce que disait Milton Friedman. Il est toujours, j'ai jamais rencontré une baisse d'impôt que j'aime pas.
Voilà.
Donc, on part du principe que s'il propose une baisse d'impôt, c'est très bien, quoi.
Oui, surtout que, on peut le comprendre, le RN s'intéresse
en particulier,
voilà, aux gens dont les revenus sont assez modestes. Mais c'est surtout une sociologie qui travaille, mais dont les revenus sont modestes. Et forcément pour eux, bah la facture d'énergie, c'est ce qui représente le plus par rapport au reste de la population. Voilà.
Et surtout, si la facture d'énergie augmente, ça veut dire qu'ils doivent couper ailleurs.
Ouais.
Ils ont pas de réserve pour absorber ça.
C'est pas comme s'ils avaient 300 euros par mois qu'ils pouvaient mettre de côté et du coup on peut puiser là-dedans. Non, c'est vraiment parfois c'est soit on va se chauffer, soit on va manger ce soir, soit on va manger ce soir, soit on va mettre de l'essence dans la voiture. Voilà. Il y a plein de gens qui disent que pour aller travailler, ils ont besoin de leur voiture et que véhicule en fait consomme plus qu'eux en termes de.
C'est amusant ce que vous racontez parce que moi, il y avait quelqu'un qui travaillait pour moi dans la région d'Avignon que j'aime beaucoup d'ailleurs et la région et la personne qui travaillait pour moi et elle habitait à côté de Nîmes et quand le prix à cause de Edouard Philippe, le prix de l'essence était beaucoup monté, elle a été obligée de déménager. Pour se rapprocher, parce que l'augmentation de la note...
C'était plus simple de faire comme ça que...
Vous vous rendez pas compte à quel point il y a des gens qui sont pris à la gorge, quoi.
Ouais. Et pour le coup, je pense que c'est un mauvais calcul, parce que la mobilité... C'est une condition de création de richesse aussi.
Mais bien sûr.
Dès qu'on augmente les mobilités, d'un seul coup, la création de richesse explose. Et justement, ce qu'on taxe en plus sur l'essence, c'est ce qu'on ne reçoit pas derrière en recettes fiscales supplémentaires de tout ce qui a été créé en plus. Et en plus de ça appauvrit les gens puisque justement, ça les empêche de créer.
Mais s'il faut augmenter le prix de l'essence, à la limite, ça arrange peut-être un peu le gouvernement français et peut-être aussi beaucoup les producteurs de pétrole là-bas dans le Golfe ou j'en sais rien. Mais ça fait baisser le niveau de vie des Français. Il faut comprendre, une hausse du prix de l'essence, c'est une hausse des impôts.
Oui.
Parce que autrefois, l'INSEE, je ne sais pas si le faisait toujours, calculait combien il restait à chaque citoyen, chaque catégorie de citoyen, en fonction des dépenses obligatoires qu'ils avaient à faire. Parce que vous avez un certain nombre de dépenses pour les impôts, c'est obligatoire. Mais le chauffage, l'énergie, le transport, tout ça, c'est aussi des trucs obligatoires. Donc, ils calculaient combien il restait. Ben, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, en France, il doit y avoir un quart de la population qui, une fois qu'il a fait toutes ses dépenses obligatoires, est à zéro, quoi.
Ouais, évidemment.
Ça doit être au moins un quart. Faire monter le prix de l'essence, de façon artificielle, c'est monstrueux, quoi. C'est comme d'avoir fait monter le prix de l'électricité alors qu'on avait les centrales nucléaires. C'est incroyable, quoi.
Ouais, tout à fait. Et alors, en plus de ça, il propose aussi la suppression pure et simple de la TVA sur les produits de première nécessité. Alors, reste à définir ce que c'est encore, ce qui rentre dans les produits de première nécessité, parce que ça aussi, il y a parfois ces matières à interprétation.
Mais c'est la bouffe.
Mais voilà, c'est essentiellement ça. Et bon, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on en pense ? Suppression totale
Plus on supprime l'impôt, mieux ça vaut, quoi.
Ok, très bien. Et alors, c'est là qu'on arrive dans le dur. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ils ont proposé aussi, c'est Jean-Philippe Tanguy qui propose une taxe sur les rachats d'actions des entreprises.
Complètement crétin.
À hauteur de 33%. pour un gain estimé à 8,8 milliards. Alors pourquoi c'est un problème de taxer à ce point les rachats d'actions sur les...
Enfin, des entreprises ? Si vous voulez, encore une fois, Jean-Philippe Tanguy, le RN ne sont pas propriétaires des actions. Ils sont... C'est régi par le droit de propriété qui est un droit constitutionnel. Donc il se permet de décider à la place du conseil d'administration ce que les sociétés vont faire.
Ouais.
Ben, c'est tout simplement du socialisme communiste, quoi. C'est pas à lui de faire ça. Il faut que dans un pays il y ait une égalité du droit et que le droit soit le même pour tout le monde. Et si vous voulez racheter des actions plutôt que de verser des dividendes, eh ben, ça regarde pas le gouvernement. Ils arrachent des actions probablement parce que c'est plus efficace, à cause, peut-être, les gains sur les actions sont moins taxés que sur les dividendes, j'en sais rien. Mais c'est, du point de vue juridique, c'est une monstruosité. Ouais. C'est une atteinte à la liberté de disposer de son propre capital.
Ouais.
Je vois pas ce qu'il donne à Jean-Philippe Tanguy, qui doit avoir 30 ans, le droit de décider pour le conseil d'administration de Total de la façon dont le conseil d'administration de Total doit diriger le capital. Ouais. Ça ne le regarde pas, c'est en dehors de la loi.
Surtout que, en fait, à chaque fois, ces trucs-là sur les entreprises, c'est problématique parce que les entreprises, après, sont obligées de faire des montages particuliers dans lesquels, en général, elles sont obligées de s'endetter pour payer le moins possible. Et du coup, on arrive avec des entreprises, alors qui font beaucoup d'argent, mais qui ont aussi des dettes faramineuses pour essayer justement de noyer leurs bénéfices là-dedans. Et justement, les rachats d'actions, ça leur permet de racheter un petit peu leurs dettes d'une certaine manière.
Surtout le capital. Et parce que les actions, ce que je trouve, je toujours trouvé scandaleux du point de vue capitalistique, c'est que si vous empruntez de l'argent, vous avez le droit de déduire les taux d'intérêt, les intérêts que vous avez payés de vos bénéfices.
Ouais.
Bon. Mais si vous payez des dividendes, vous n'avez pas le droit d'enlever les dividendes.
Ouais.
Donc, et pourquoi ? Puisque dans les deux cas, c'est le coût du capital.
Ouais.
Donc, encore une fois, si vous voulez, on fait tout pour empêcher que la propriété, dans un pays normal, je vais dire un truc, c'est ce qu'essaye de faire Milei en Argentine, logiquement...
C'est son anniversaire d'ailleurs, je crois, aujourd'hui.
Oui. Logiquement, le capital ne devrait pas être taxé, et il devrait... Les dividendes ne devraient pas être taxés, et c'est quand ils apparaissent dans le revenu
des gens
qu'à ce moment-là, on rajoute.
Ouais.
Et on le taxe, sinon vous le taxez deux fois.
Ouais. Oui, bah oui.
Et vous taxez zéro les taux d'intérêt. Donc ça favorise la dette, ce qui rend le système beaucoup plus fragile, parce que si les taux d'intérêt montent... Donc,
en fait, ça empêche les entreprises de fonctionner avec leurs fonds propres.
Voilà.
C'est, du coup,
on les force à emprunter.
Exactement, on les force d'une certaine manière
à emprunter. C'est-à-dire que c'est complètement idiot, quoi. Ouais. Donc... imaginez en plus, Monsieur Jean-Philippe Tanguy ne connaît rien sans doute à la rentabilité marginale du capital, mais imaginez qu'il y a une société en France qui gagne beaucoup d'argent et qui se rende compte que la rentabilité marginale des investissements qu'elle va faire est faible ou négative ou nulle. Donc ce qu'elle doit faire, si elle a le moindre respect pour ses actionnaires, c'est leur rendre l'argent en leur disant, c'est à vous maintenant de choisir des investissements, parce que moi, je suis arrivé... Imaginez que vous soyez une grande entreprise de sidérurgie en 1960, vous gagnez plein d'argent, et puis vous vous rendez compte que y a des surcapacités qui arrivent partout, que vous allez en perdre, donc vous rendrez le pognon aux actionnaires, et à charge pour eux de se démerder, de leur investir comme ils veulent. Ouais. Tandis que monsieur Jean-Philippe Tanguy dit, non, vous allez continuer à faire de l'acier.
Ouais.
Si vous continuez pas à faire de l'acier... on va vous punir.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui lui permet de penser qu'il connaît rien à l'acier?
Oui.
Il connaît rien
c'est
au pétrole.
C'est pas lui d'organiser l'économie de l'acier.
Il organise l'économie de l'acier. Donc on sait très bien ce que ça va faire. Ça va mener à des désastres.
Ouais.
Donc il raisonne comme une planche, mais voilà.
Bah, c'est quand même.
Il comprend rien à l'économie, cher garçon.
Alors c'est-à-dire qu'il y a une tare dans ce milieu politique. C'est la volonté de diriger l'économie absolument et de penser que nous, en tant que administrateurs ou politiques ou je ne sais quoi, on va mieux diriger l'économie que les chefs d'entreprise qui eux savent ce qui est bon pour leur entreprise, donc pour leur production.
Pour leurs actionnaires. Pour leurs actionnaires aussi. La responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires, de leur président de société est ce qu'on appelle révocable ad nutum, c'est-à-dire que s'il fait une connerie, il peut être révoqué du jour au lendemain, il a droit à rien du tout.
Ouais.
Bon, mais si Monsieur Jean-Philippe Anguille force les gens à faire de l'acier alors que plus personne n'en a besoin, il sera pas révoqué ad nutum, lui.
Ouais.
C'est-à-dire, il prend des décisions sur les sociétés, mais il n'a aucune responsabilité si le désastre arrive.
Ouais, tout à fait.
Et donc, c'est du n'importe quoi.
Tout à fait. Ouais.
Mais que ce garçon reprenne un peu de modestie.
Ouais.
Qu'il revienne à son niveau.
Ouais, c'est sûr, c'est un peu compliqué. C'est le genre de truc, la taxe sur le rachat d'actions, c'est le genre de truc qui coûterait, par exemple, 3 milliards d'euros à Total. Voilà. Total seul devrait payer 3 milliards d'euros dans un cas.
Voilà. Mais je vais dire honnêtement, j'ai la plus grande sympathie pour les gens du Rassemblement National. J'en ai eu depuis toujours, d'ailleurs. Et je peux pas m'empêcher de dire, écoutez, si le Rassemblement National, c'est pour prendre des mesures aussi cons dans le domaine économique, et puis être pour l'euro, pour l'Europe et pour l'OTAN, je vois pas à quoi sert le Front National, quoi.
Ouais.
Mais qu'il cesse de se prendre... Je veux dire, j'ai pas besoin d'un Rassemblement National qui... La seule différence avec le LFI, c'est l'immigration, quoi. Ça me paraît pas particulièrement intelligent. En fait, c'est d'une stupidité totale. Le programme économique du Rassemblement National, ça touche à l'enfantillage.
Oui, oui. Ils sont pas à la hauteur de... Du truc, effectivement. Il propose aussi un rabais de 5 milliards de la contribution française à l'Union européenne. Bon, là-dessus...
ça, c'est fonction des traités. Je sais pas si c'est possible ou pas.
Oui, voilà, ça, c'est aussi...
Je sais pas du tout. Je connais ça.
C'est possible. La plupart des pays contributeurs nets ont eu des rabais, à l'exception de la France et de l'Italie. Donc, ce serait possible, théoriquement. Après, à quelle hauteur, c'est aussi la question. Est-ce que ce serait
possible
de rabaisser
5 milliards ? Si on prend 3 milliards et qu'on prend une amende de 6 milliards parce qu'on n'est pas, on n'est pas dans les règles budgétaire.
Ouais. C'est un
mauvais calcul, Jean-Philippe Tanguy. Il ferait mieux de s'occuper de baisser les dépenses de l'État. Ça, ce serait intelligent, façon à ce qu'on n'ait pas cette amende qui nous pend au nez. Il serait dans son boulot.
Tout à fait. Il propose aussi la fin de l'obligation de rachat d'énergie renouvelable par EDF à un tarif préférentiel. Bon, ça aussi,
c'est une baisse des impôts, c'est une bonne idée, ça.
Selon lui, ça nous ferait 6 milliards de plus. Et alors, en revanche, contrairement aux autres, il veut pas toucher au pacte Dutreil. Donc c'est le mécanisme de transmission d'une entreprise familiale.
Ça, c'est bien.
C'est soutien aux énergies fossiles, suppression du plan vélo, baisse du fonds vert, réduction de...
On ne supprime pas comment s'appelle ce truc idiot qui s'appelle l'ADEME ou je ne sais plus quoi là. Comment s'appelle ce truc pour l'électricité là.
Si, oui. Oui.
On le supprime.
Oui, on le supprime, oui.
On le supprime et puis on met pas en prison ceux qui l'ont créé.
Oui, moi je suis pour. Après,
je suis pas contre, pour savoir.
Oui, je suis pas contre. Enfin voilà, pour l'essentiel des mesures qui sont proposées par le Rassemblement National, ça reste encore un petit peu à développer, ma foi. Mais enfin, il y a quelques trucs bien, il y a quelques trucs pas terribles. Et après, là, j'avais pété un câble. J'ai regardé cette interview qui est en fait une table ronde. Là, vous pouvez voir de quel journal il s'agit. Il s'agit de L'Humanité.
Qui n'existerait pas s'il n'y avait pas des subventions, qu'il faut supprimer toutes affaires cessantes.
Voilà, tout à fait.
Pas que pour l'humanité, pour l'opinion, pour ces trucs-là, tout ça, ça n'a pas raison d'être subventionné. Le Monde, Le Figaro, Ouest France, tout ça, supprimer les subventions de l'État. La France est le seul pays au monde qui subventionne les journaux dits d'opinion.
Ouais. Et effectivement, ça n'existerait plus depuis un bon moment.
Il n'y a pas de raison que ça existe.
Donc, ils ont fait une table ronde avec les types du nouveau Front Populaire. Et en fait, ça aide à comprendre certains trucs. Parce que, en fait, quand on lit cette table ronde, on comprend que... Alors déjà, le problème budgétaire pour le nouveau Front Populaire n'est pas du tout un problème de dépenses. C'est un problème de manque de recettes. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est augmenter les impôts, les cotisations, les taxes, etc. Là, j'ai un extrait... Notamment sur la question des retraites, on parlait des retraites il y a quelques semaines en disant qu'on dépensait trop pour les retraites et qu'en plus de ça, le système était mal foutu parce que aujourd'hui, on est en récession d'un point de vue démographique et on est dans un système par répartition, donc ça ne peut pas marcher. Et là, ils nous disent « Le Conseil d'orientation des retraites a montré que l'équilibre du système des retraites était un problème de recettes et non de dépenses. » Donc là, ça veut dire qu'on va encore augmenter les cotisations. Or, j'ai trouvé cette semaine, l'Adresse vient de publier une note intitulée « De combien faut-il augmenter un salarié au SMIC pour relever son revenu disponible de 100 euros ?» Par exemple, pour une mère célibataire au SMIC avec deux enfants, on doit dépenser 770 euros pour l'augmenter de 100 euros, c'est-à-dire un taux marginal effectif de prélèvement obligatoire de 87%. Une grosse partie de ces prélèvements obligatoires servent justement à payer le système de retraite. Donc si on commence à augmenter encore ça, en fait, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Déjà, c'est beaucoup trop. Mais alors, si on augmente encore plus, faut juste laisser tomber, quoi. Plus personne ne va être employé.
Mais en plus, c'est un problème de recettes. Mais j'entends bien, le déficit est un problème d'insuffisance de recettes. Mais les dépenses de l'État sont aujourd'hui à 60% du PIB, ou quelque chose comme ça, d'après les calculs de l'OCDE. Et on est à 10 points de plus que la quasi-totalité des autres pays, et un pays comme la Suède, comme la Suisse, doit être à peu près à 30%. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, plutôt que d'essayer de monter les, parce que c'est 750 euros, 770 euros, il faudra que quelqu'un les paye. Il faudrait peut-être essayer de diminuer les dépenses ailleurs dans l'État qui servent à rien. Les hautes autorités, les grands conseils,
tout ce qui commence par conseil, il faut le supprimer.
Oui, par exemple.
Je crois qu'il faut même pas se poser la question.
Par exemple, il y a autre chose, c'est que les dépenses pour accompagner les EQTF, je crois que c'est 40 millions par an qui sont budgétés pour les raccompagner, si vous voulez. Mm-hmm. Et les subventions qu'on donne aux gars qui font venir les gars, vous savez, SOS Méditerranée, c'est 900 millions.
Ouais.
Donc, on pourrait commencer par supprimer ces 900 millions. Ça aiderait un petit peu. Donc, oui, il y a toute une série d'imbécilités comme ça, qui sont, ce que dit Charles Pratt, c'est qu'il y a, 73 millions de cartes vitales et 68 millions de Français, ou je sais plus quoi. Quelque chose comme ça. Donc, vous avez probablement 5 millions de cartes vitales qui se baladent là.
Ouais.
En plus de l'assistance médicale généralisée, je sais plus comment ça s'appelle, universelle, là.
Ah oui, l'AME, oui. L'AME, dont le budget a encore été augmenté de 10%.
De 10%. Donc, il y a tout un truc comme ça qui pourrait être supprimé. Et, ça ferait on pourrait donner plus en retraite, parce que je crois que, d'après les calculs qu'avait fait l'IFRAP, qui sont des gens sérieux, à l'inverse de l'humanité, là, l'IFRAP qui suit ça depuis des années, il disait que la moitié de l'accroissement du déficit depuis 5 ou 6 ans, c'était la contribution que l'État fait aux retraites.
Oui.
La moitié. Donc, on sait que ça va encore exploser dans les 2 ou 3 ans qui viennent.
Bien sûr.
Donc.
D'autant qu'il propose, déjà que c'est insuffisant dans l'état actuel, mais il propose en plus de ça de mettre la retraite à 60 ans, donc ce serait encore aggravé.
Oui. Donc, d'abord, il y a, encore une fois, je reviens à quelque chose. Moi, j'ai 81 balais. Je vois pas pourquoi on me forcerait à prendre la retraite. La retraite, c'est fait par des imbéciles comme ceux-là pour empêcher les gens compétents de continuer à travailler, quoi. Donc, foutez bien la paix aux gens et laissez-leur la liberté de prendre la retraite à l'âge où ils le veulent.
D'autant que ce qu'on leur dit, c'est, t'inquiète pas, enfin, tu vas être pauvre pendant toute ta carrière à cause du montant astronomique de toutes les cotisations, mais une fois que t'auras 65 ans, t'inquiète, t'auras ta retraite comme il faut, quoi.
Pays que j'aime bien, c'est le Japon, parce qu'ils pensent pas comme tout le monde, ils sont différents. Et alors, dans les grandes entreprises japonaises, il y a un système que je trouve assez rigolo. Je sais pas si ça pourrait marcher en France. Il y a tout le monde bosse, et puis il y a des gens qui travaillent là, qui sont particulièrement compétents. Et là, quand ils arrivent vers 50, 55 ans, quand ils se rapprochent de leur retraite, on les convoque devant le conseil d'administration, je sais pas quoi, et on leur dit, vous êtes un employé tout à fait exceptionnel, et donc on va vous faire un cadeau remarquable. Vous n'avez pas besoin de prendre votre retraite, vous retravaillerez toujours pour nous, parce que vous êtes quand même très très bien, on veut surtout pas vous perdre.
Ouais.
Et c'est un signe d'honneur au Japon tout à fait remarquable, les gens sont tout à fait contents. C'est ce que disent les Anglais, les dames anglaises. Vous savez que j'ai vécu 25 ans en Angleterre. Les dames anglaises de la retraite. La retraite, c'est pas un truc gagnant parce qu'on a de plus en plus de maris et de moins en moins d'argent, quoi. ça se passe pas au Japon, quoi. Vous voyez, mais foutez bien la paix aux gens. Laissez-les prendre leur retraite. Vous pouvez pas prendre votre retraite avant 60 ans, 65 ans, j'en sais rien. Mais si vous avez encore une envie de bosser.
Ouais. La retraite, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Alors il y a des gens qui sont très forts pour aller à la retraite, ils en avaient besoin, voilà, ils s'éclatent. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui
il y en a qui meurent deux ans après.
Il y en a qui meurent de la retraite parce que à force de rien faire, de se sentir inutile, en fait, c'est pas bon ni pour le cerveau ni pour le corps.
Mais c'est pas ça. Puis en plus, il y a une pénurie de médecins, pas possible.
Ouais.
On les met à la retraite. Je sais pas à quel âge. 65 ans, j'imagine. Et donc, je connais un médecin qui est dans le 7e, là, qui adore son métier, qui a 65 ans. Il continue à travailler, mais je crois que ça lui coûte de l'argent de continuer à travailler. C'est-à-dire qu'il y a des pénalités sur les gars qui prennent leur retraite parce que c'est parce qu'il faut, il faut que le gars s'en aille parce qu'il y en a un autre qui va arriver. Mais là, il y en a pas qui arrive. On n'a pas fait les médecins à cause de ce crétin de Juppé. On a fait un numerus clausus qu'on a, que maintenant on paye 30 ans après. C'est ça qu'il faut s'en rendre compte. C'est tous ces gens, il faut bien qu'ils s'en rendent compte, qu'ils nous écoutent. C'est que ces mesures imbéciles qui sont prises, c'est 30 ans après qu'on en voit les dégâts. C'est pas les élections suivantes. Oui, c'est, ça fait 30 ans que ces gars-là font des faux raisonnements et nous amènent dans des trous et ils disent, il faut creuser encore. Ouais. Mais arrêtez, foutez la paix aux gens et ne prenez pas des décisions à 30 ans. Laissez les gens libres de prendre leur retraite quand ils veulent.
Ouais. Et alors comme autre ânerie, évidemment, alors il y a alors leur sempiternel comment dire, taxe sur les super profits.
Ah ben voilà encore une imbécilité ça.
Alors et puis ISF climatique aussi parce que pour ceux qui polluent voilà, ISF climatique tout simplement c'est, voilà, ça va régler nos problèmes apparemment.
Ben si vous voulez quand vous allez de Sommières à Calvisson ou je sais pas quoi qui sont de petites villes qui sont là-bas dans le Gard vous polluez.
Oui.
Quand vous allez d'Avignon à Orange vous polluez. Donc c'est-à-dire que vous taxez le mouvement.
Oui. Oui, et encore une fois, oui.
Donc, vous remarquerez que tous ces gars-là, ils ont quand même qu'un seul but, c'est que la paysannerie française, si j'ose dire, ou le petit peuple français, redevienne attaché à la glèbe, qui reste toute leur vie dans le village dont on
fait. C'est-à-dire que déjà, l'essence est taxée, mais en plus, derrière, on va regarder votre kilométrage, je sais pas quoi, on va dire, ça fera encore...
On va mettre une super taxe parce que vous avez... C'est extraordinaire à quel point ces gens, leur but, c'est toujours de vous empêcher de bouger, de vous empêcher d'être libre, de vous empêcher d'informer comme vous voulez. Et moi, ça me laisse pantois, mais vous pouvez pas laisser les gens décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Et en plus, vous avez quand même beaucoup de scientifiques, dont beaucoup de prix Nobel. Vous avez Bjørn Lomborg, qui a été l'un des premiers à tirer l'attention sur tous ces phénomènes, qui est un Danois, qui explique que nous n'avons aucune preuve que le réchauffement climatique soit d'origine humaine. Il dit qu'il n'y a pas une seule preuve qui existe. Et en plus, je veux dire aussi, c'est que toutes les périodes de réchauffement dans l'histoire ont été des périodes d'enrichissement de la civilisation, et toutes les périodes de refroidissement, c'est là où on crevait.
Ouais.
Donc, je ne sais pas quoi dire, parce que ça me rappelle le Covid. La science a parlé. Ben, la science a rien parlé du tout. On se rend compte qu'il n'y avait pas de science, et là, il n'y en a pas plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'il y a un consensus scientifique qui n'existe pas, parce que, par définition, il ne peut pas y avoir de consensus scientifique.
Et, comment dire? En plus de ça, aujourd'hui, le recul que l'on a, si vraiment ils sont très attachés à cette question des émissions de gaz à effet de serre, l'outil le plus efficace dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le capitalisme.
Bah
c'est l'innovation technologique. C'est... Les émissions de CO2 en France, elles sont moindres en 2024 qu'en 1924.
Hein?
Voilà, tout simplement. Il y avait deux fois moins de personnes. Il y avait quand même plus d'émissions.
Charbon.
Voilà, il y avait tout se faisait au charbon, donc forcément, voilà. Pareil en Angleterre. Bon, et aujourd'hui, on a des centrales
nucléaires.
À Londres,
dans les années 50, il y avait eu un fog, vous savez, un brouillard, qui avait fait plusieurs milliers de morts. Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre des mesures pour empêcher les gens de se chauffer au charbon à Londres et tout.
Ouais.
Donc, je suis férocement contre la pollution. Ça va sans dire. Mais dire que le CO2, c'est de la pollution, c'est ne rien connaître à la nature. Incroyable. C'est le gaz qui nous permet de vivre. Si on baisse de quelques dixièmes de pourcent le CO2 aujourd'hui, on crève tous.
Ouais. Oui, il y a une fine marge.
On est presque au niveau le plus bas pour que la vie puisse survivre. Alors arrêtez les bêtises, les mecs.
Bon, je vais polluer encore un petit peu plus, alors.
Mais vous polluez pas. Si vous produisez des CO2, c'est une bonne chose.
Oui,
parce que les plantes adorent.
Façon de parler. Mais
je crois qu'aujourd'hui, la surface des forêts dans le monde est à un plus haut historique.
Ouais.
Parce que jamais les arbres ne sont passés aussi bien.
C'est aussi un truc qui se... Oui, bah oui, forcément.
C'est ce qu'elles bouffent.
Si elles peuvent consommer plus de CO2, forcément, oui, il y a plus de végétation. Et puis aujourd'hui, l'homme aussi, sur la planète, de manière générale, organise la végétation de manière assez efficace. Donc, bon. Et ah oui, sur la dette, c'est là aussi qu'on comprend certaines choses. Alors le journaliste demande, enfin journaliste, façon de parler, le journaliste dit le gouvernement et la droite disent qu'elle est irresponsable de laisser courir la dette, que faire d'elle? Et alors on a un type du NFP, Frédéric Bocara, qui nous dit nous ne devons pas appréhender la question de la dette de façon statistique. De façon statique, en réfléchissant en termes de dépenses et de recettes. Bah, si on réfléchit pas comme ça, comment on réfléchit en fait ?
Moi qui suis un financier, je vous dis que la plupart des financiers, ils réfléchissent pas en termes statiques, de recettes ou de dépenses. Il y a deux choses qui comptent si vous utilisez la dette comme un placement. Et je m'excuse, ce sont des évidences, mais quand on a affaire à des crétins, il faut répéter les évidences. La première, c'est ce qu'on appelait la rentabilité du capital, c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous allez toucher dessus. Ça, c'est important. C'est à partir de ça que vous déterminerez souvent l'épargne que vous allez avoir. Plus le taux est élevé, plus vous épargnez, etc. Bon. Et le deuxième, c'est le retour du capital, le remboursement. Ouais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, qui commence à être le cas en France, ils sont certainement au-dessus du taux de croissance du secteur privé, à ce moment-là, pour des raisons de calcul mathématique, l'exponentielle de la dette croît beaucoup plus vite que l'exponentielle de la richesse créée. Ouais. Donc, ça s'appelle une trappe à dette, ça a été mis en lumière par Keynes en 1934, mais ces gars-là, ils ont dû cesser de lire il y a très longtemps. Et donc, dès que les gens se rendent compte que le pays est dans une trappe à dette, vous savez que la situation devient insoutenable à 2-3 ans. Quoi. Donc, encore une fois, ces gens utilisent des mots qui ne comprennent pas.
Oui, bah on le voit après parce que plus loin ils disent le deuxième problème réside dans les taux d'intérêt pratiqués. C'est-à-dire que ils se disent en fait c'est formidable de s'endetter, mais ce qui est un peu énervant avec la dette, c'est que derrière on doit payer des intérêts et on aimerait bien ne pas avoir à le faire. Donc la France paye ainsi 50 milliards d'euros de charges d'intérêt sur sa dette, soit l'équivalent de l'enseignement primaire et secondaire, bah la faute à qui. Et à l'avenir la facture devrait grimper à 70 milliards d'euros, mais les copains
elle sera 100 milliards de moins dans 15 jours, oui.
70 milliards, oui, c'est pour 2025 hein, c'est pas pour dans 10 ans hein. Donc à ce rythme-là 70 milliards ça on va
Et ça va croître de façon exponentielle.
Oui, bah oui, parce que forcément, plus
alors qu'est-ce qu'on mette les taux d'intérêt à zéro ?
Bah oui, en fait, ils voudraient voilà une autre politique de la Banque centrale européenne, parce que voilà, on va quand même bien la, on va bien l'utiliser celle-là. Et la création d'un pôle public bancaire permettrait de prêter à 0% d'intérêt pour que cet argent serve à la satisfaction des besoins et le développement du pays. Mais c'est formidable. On a la solution sous les yeux, en fait.
Mais c'est-à-dire qu'une fois de plus, de ces
mettre les taux d'intérêt à zéro.
Je devrais pas dire des imbéciles, mais ce sont des imbéciles. Ils confondent la création de monnaie et la création de valeur. Alors, je vais leur essayer de réexpliquer ça une fois. Je l'ai fait 25 fois, mais je vais le refaire une 26e. C'est quand vous mettez les taux d'intérêt très bas, ceux qui ont de l'argent, ils vont emprunter.
Ouais.
Monsieur Arnaud va emprunter. Pour faire quoi? Pour s'acheter un immeuble sur les Champs-Élysées.
Ouais.
Parce que, donc, le prix de l'immeuble sur les Champs-Élysées va monter, mais la quantité d'immeubles ne va pas augmenter.
Ouais.
Donc, pour que le système fonctionne, il faut que le taux d'intérêt soit mis au niveau de la rentabilité marginale du capital, de façon à ce que simplement ceux qui peuvent gagner plus que les taux d'intérêt empruntent, et ce faisant, accroissent la quantité. Mais si vous les maintenez en dessous... Le prix des, c'est-à-dire que les riches deviendront de plus en plus riches, la productivité ne montera pas parce qu'il n'y a pas d'investissement, et ce qui se passera, c'est que les pauvres deviendront plus pauvres. Donc, ces crétins de l'humanité préconisent une politique qui favorise les riches et défavorise les pauvres.
Ouais.
Ben, si vous voulez, moi je me dis vraiment, ils ont vraiment rien compris.
C'est aussi un truc que, alors j'avais vu, c'était Pierre Poilievre qui l'expliquait très bien, c'est le chef du Parti conservateur au Canada. Il expliquait très bien à la Chambre que l'inflation, c'est une taxe
sur
les pauvres, parce que si vous avez des actifs, en fait, la valeur de vos actifs ne va pas bouger. Donc si vous avez un appartement, elle va augmenter même. Enfin, le prix en tout cas, mais la valeur en tout cas ne baisse pas. Mais voilà, si vous avez un appartement sur les Champs-Élysées, une grosse maison en Normandie, vous avez une belle Jaguar, tout ça, ou une belle montre, tout ça ne va pas baisser forcément en valeur. En revanche, tout ce qui va être liquidité, donc le cash dans votre monnaie, oui. Et le problème, c'est que les pauvres, ceux qui ne détiennent rien en termes d'actifs, c'est ceux qui n'ont que la monnaie. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont baisse en termes de valeur, alors que les autres, non. Donc, les riches, eux, ils ont toujours quelque chose pour se sauver.
Je peux vous faire un petit calcul, de façon à faire comprendre ce que vous dites, que dit Poilievre, qui est très juste. Mettons que l'assurance vie en France soit à 2000 milliards, allez, boum.
Oui.
Bon, si les taux d'intérêt sont à 5.
Ouais.
Hypothèse. Donc, il y a quelque chose, il y a 100 milliards qui va à ceux qui ont épargné, ce qui leur permet de mettre du beurre dans les épinards, vous voyez ce que je veux dire. Si vous le mettez à zéro, ça va être à zéro. C'est-à-dire que vous avez mis une taxe de 100 milliards sur les petites gens.
Oui.
Qui leur fait baisser leur niveau de vie.
Oui.
Donc, les taux d'intérêt très bas, ça favorise peut-être celui qui emprunte.
Oui.
Mais aller dans une banque aujourd'hui, si vous n'avez pas d'actifs à mettre en face, si vous n'avez pas très bien payé, essayez d'aller emprunter du pognon. Ils vous le prendront pas.
Bah oui,
essayez d'acheter un appartement aujourd'hui à Paris.
Oui.
Si vous n'avez pas la garantie de votre père et de votre beau-père qui tous les deux ont les reins solides, et ben, vous pouvez pas le faire. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est imbécile, c'est-à-dire, c'est parce que je fais, c'est la même chose que dans l'éducation nationale. On a fait, maintenant tout le monde a le bac, ce qui veut dire que le bac ne vaut plus rien.
Oui.
Donc, ils font de la fausse monnaie dans les diplômes, ils font de la fausse monnaie partout.
Oui.
Et ils s'étonnent que le peuple ne soit pas content.
Oui. Mais c'est très révélateur de la manière dont ils réfléchissent, quoi.
Pensent qu'il y a un repas gratuit.
Oui, exactement.
D'abord, ils pensent qu'il y a un repas gratuit, ce qui est faux, il n'y en a jamais. Et deuxièmement, ils pensent que, dans le fond, la gestion de l'économie, c'est de prendre ceux qui en ont trop pour le donner à ceux qui en ont pas assez. Ouais. Mais s'ils font ça par l'intermédiaire des taux d'intérêt, et ben, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, ceux qui en ont beaucoup, ils vont beaucoup monter, ceux qui en ont pas assez, ils vont beaucoup baisser.
Mmh. Et ils sont persuadés en fait que toute somme d'argent qui circule dans l'économie est quelque part un peu à eux et que finalement
ils ont le droit de le diriger.
Et si vous avez encore un petit peu d'argent en fait, c'est parce que finalement ils n'ont juste pas décidé de vous le prendre. Donc finalement c'est quelque part un cadeau. Là par exemple, c'est très révélateur ça aussi. Faut mettre fin aux aides sans contrepartie. Les exonérations de cotisations sociales atteignent 80 milliards d'euros alors qu'elles ont un effet limité sur l'emploi. Ce qui veut dire par là, c'est que en fait, il y a ce que beaucoup de gens de gauche notamment appellent les aides aux entreprises qui atteignent 80 milliards d'euros, sauf qu'en fait c'est pas vraiment des aides aux entreprises dans le sens où l'État subventionnerait des entreprises, c'est juste des cotisations sociales que l'État n'a pas prélevées aux entreprises. Donc c'est pas quelque chose qui viendrait de la société et qui sont enfin des fonds qui viendraient de la société et qui viendraient aider ces entreprises, c'est des fonds qui ont été créés par ces entreprises par de la création de richesse et qu'on leur a juste pas piqué. Mais eux le perçoivent comme de l'argent qu'ils leur ont donné. C'est quand même formidable comme manière de penser, je trouve.
C'est une façon tout à fait extraordinaire de penser. Et là, je voudrais dire quelque chose à ces braves gens, j'ai fait une émission ce matin avec Emmanuel pour montrer que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises était au plus bas historique. Oui. Donc, tous ces gens me disent les entreprises gagnent trop d'argent. Ben, attendez qu'elles aient toutes fait faillite, parce que si on arrive à un moment où il y en a tout un tas qui va faire faillite, le taux de chômage va exploser. Et à ce moment-là, vous n'allez pas les embaucher au Parti communiste, parce qu'il n'y a plus de Parti communiste. D'ailleurs, qu'il y a encore un Parti communiste en France, c'est tout simplement incompréhensible. C'est le seul pays au monde où il y a encore un parti communiste.
Non, je pense pas que ce soit le seul, mais...
Bon, il y a la Chine, mais ils sont pas vraiment communistes.
Ouais, c'est pas faux. Et alors, cette table ronde, elle se termine vraiment en apothéose parce que... Alors, je vais vous lire le paragraphe. Il faut changer les choses en Europe. Nous pouvons défendre la création d'un fonds européen abondé par la BCE pour financer les services publics. En France, un pôle public constitué de la Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement et la Banque postale pourraient commencer à mettre en œuvre cette politique. Les pays européens peuvent créer aussi des pôles publics bancaires qui, ensemble, serviraient de base à un pôle européen au niveau international.
C'est-à-dire qu'il faut créer plus de monnaie.
Voilà. Et au niveau international, il faut renégocier les traités de libre-échange. Il faut transformer le Fonds monétaire international et favoriser une monnaie commune mondiale. Je crois que là...
On a
tout, quoi.
Il n'y a pas une imbécilité qui manque.
Ah ouais, c'est dingue.
Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, les gars, c'est, vous savez ce que vous devriez faire? Si vous devriez, comme ça, prendre un peu de repos, un an ou deux.
Oui, au moins, oui.
Et puis, allez, j'irai une petite baraque à frites, là, du côté de la gare Montparnasse.
Oui.
Et voir comment vous vous déployez, l'argent qui rentre, l'argent qui sort et tout.
Investissez, ne serait-ce qu'avec ce que vous avez de votre salaire de député, investissez dans une baraque à frites, gérez la baraque à frites et voyez comment ça se passe.
Comment ça se passe. Parce que vous êtes tellement dans l'hypothèse que créer de l'argent, c'est créer de la richesse. Et ce que j'ai toujours envie de demander à ces gars-là, les banques d'investissement nationalisées, etc., on l'a fait ça.
Il y en a eu 25 dans l'histoire.
Et ça arrive toujours. Et si vous pouvez me donner un seul exemple où ça a marché, parce que jusqu'à plus simple informé, ils ont été très favorables à Cuba, ils ont été très favorables au Venezuela, ils ont été très favorables à Phnom Penh, ils ont été très favorables. Donc, tous ces gens, c'est pas comme si ça avait réussi quelque part.
Ouais, ça, ils en parlent, ouais. Les banques totalisent 2000 milliards d'euros de capacité d'investissement. Le budget de l'État, c'est seulement 400 milliards d'euros. Il faut prendre le pouvoir sur les banques. Voilà, c'est formidable. Il y a de l'argent qui circule encore. Donc, pourquoi c'est pas à l'État? Je comprends pas.
Il est pas à eux?
Non, il n'est pas.
Il y a un droit de propriété, et puis les banques ont des actionnaires, et pour les prendre, en prendre le contrôle, en bonne logique économique, il faudrait qu'ils les réquisitionnent, ils n'en ont pas le droit, mais qu'ils les achètent.
Ouais.
Et je voudrais dire un truc à ces génies qui nous gouvernent, c'est que l'indice des banques à Paris, bah 100 au moment où l'euro a été créé, mettons qu'ils étaient à 100. Vous savez comment quel est l'indice des banques aujourd'hui en France? Il est à 30.
Ah oui, d'accord.
Donc, ça fait 25 ans qu'à cause de l'euro, les banques perdent tout ce qu'elles veulent et elles sont sauvées par des fausses subventions de la banque centrale, etc. Donc, si c'était tellement rentable, les banques, elles seraient à 450. Par contre, il y a un pays où elles sont à 450, c'est la Suède. Pendant que nos banques passaient de 100 à 30, les banques suédoises passaient de 100 à 450. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'euro.
Oui.
Parce qu'ils ont, des vrais prix en Suède. Donc je me dis, mais les gars, par exemple, vous prenez la Suède. Ils ont eu le Covid. Comme nous.
Bien sûr.
Eh bien, pendant le Covid, leur déficit budgétaire s'est réduit. Parce qu'ils ont dit, on ne ferme rien, c'est une grosse grippe. Et parce que d'après la constitution suédoise, le seul qui avait le droit de prendre une décision, c'était le Raoult local.
C'était Panoramix.
c'était Panoramix qui prit la décision, et Panoramix qui l'a dit, surtout il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est vacciner pendant une épidémie. Parce que c'est une imbécilité totale, disait-il. Vacciner dans une épidémie, c'est propager l'épidémie. Et donc, ils ont maintenant toujours des comptes courants excédentaires, ils ont un budget, un déficit budgétaire, et ils vont baisser les impôts en Suède parce que les rentrées sont trop fortes.
Ah oui, ils ont beaucoup de problèmes là-bas.
Ben, ils devraient embaucher quelques grains de ces gars-là, ça réglerait leurs problèmes.
Ouais, bien sûr. Non, ils ont pas écouté le NFP, enfin, ça fonctionne pas leur société là.
Leur société, ça marche pas du tout.
Je comprends pas.
Ils ont des fonds de retraite qui sont tout à fait suffisants.
Oh, ça va pas du tout, tout ça.
Non, ils sont privés des conseils. À mon avis, au niveau supérieur, il faut qu'ils embauchent quelques inspecteurs des finances, et au niveau inférieur, il faut qu'ils embauchent ces gars-là, parce que là, en 3 ans, ils se retrouveront en faillite.
Ouais. Oui, oui.
Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que moi, vous savez, j'ai des amis qui étaient médecins et tout, qui me disent que le pire dans les dîners en ville, les médecins, c'est quand ils ont des gens qui leur expliquent que comment il faut soigner les malades, quoi. Vous voyez, ils ont passé 10 ans à les étudier, et puis vous avez toujours des gens qui vous disent non, vous devez prendre de la poudre de perlimpinpin, ça, vous allez voir, ça va marcher très bien. Et moi qui ai passé ma vie à étudier l'économie, vous avez toujours 3 corneaux qui ont le certificat d'études, qui ont jamais fait d'études, qui ont jamais rien géré, qui sont bons à rien, qui ont toujours été fonctionnaires et qui viennent m'expliquer ce qu'il faut faire.
Ouais.
Et ça a été essayé 25 fois et ça n'a jamais marché. Et ben ça continue. C'est ça qui est extraordinaire, c'est à quel moment quelqu'un de normalement intelligent regarde ce qu'il dit et dit, est-ce que ça a été essayé? Je vais aller vérifier. Et ça a été essayé partout et ça n'a jamais marché.
Ouais.
Donc, il y a peut-être un moment où il devrait faire un pas de recul et se dire, vous savez quoi? Moi, par exemple, quand je suis dans un dîner en ville, je parle assez peu d'opéra. Parce que j'y connais rien.
Ouais.
Moi, j'y connais rien. J'aime bien l'opéra, mais j'y connais rien. Donc, j'ai rien à dire, donc je ferme ma gueule. Mais qu'est-ce qui donne le droit à ces gens-là de parler d'économie? Qu'est-ce qu'ils voient? Je veux dire, mais intellectuellement, ils ont pas honte.
Oui, je sais.
Ils ont pas honte, ils ont pas peur de se couvrir de ridicule. Non, mais non, pas du tout.
Non, très franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe vraiment dans leur tête. J'ai du mal à l'expliquer en termes rationnels, quoi. Parce que pour moi, c'est pas un comportement rationnel.
Et en plus, ça passe toujours par, on leur donne le pouvoir à eux.
Oui.
Et ils vont organiser le système à la satisfaction générale.
Oui.
Mais ça se termine toujours avec quand on donne le pouvoir à eux, avec des camps de concentration, des miradors.
Mmh.
Ça s'est passé en Russie, ça s'est passé partout. Au Cambodge, ils en ont tué la moitié, avec des millions de morts. Donc, je sais pas, un peu de modestie, ça serait...
Ouais, c'est peut-être le minimum, oui, effectivement.
Surtout, fermez votre gueule si vous y comprenez rien, quoi.
Et encore sur la question des dépenses publiques. Alors, cette semaine, il y a quelqu'un sur Twitter. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Enfin, un truc très récurrent qu'il y a dans toutes les administrations, dans tous les trucs publics, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans plein de trucs. Ce gars, il a partagé une page d'un catalogue. En fait, il faut savoir que dans les bâtiments administratifs, dans l'administration de manière générale, vous avez un problème de matériel, vous avez besoin, je sais pas, d'acheter une chaise, une lampe, une photocopieuse, un micro-ondes, un truc comme ça. Eh bien, vous ne pouvez pas juste aller chez Darty ou chez Castorama ou chez Boulanger.
Faut que ce soit dans le budget.
Ou à la foire fouille ou je sais pas quoi. Il faut faut aller dans le catalogue officiel. Et mon Dieu, le catalogue officiel, en fait, c'est une entreprise quasiment monopolistique qui va vous proposer en fait très peu de produits par rapport à ce que vous pouvez trouver, par exemple, je sais pas, sur Amazon ou sur
deux fois le prix, j'espère.
Et non, mais attendez, à deux fois le prix, non, mais on est pas non, à 20 fois le prix plutôt. Là, par exemple, le gars montrait une petite lampe de bureau, donc voilà, je sais pas, cette taille-là, un truc on ne peut plus simple, le genre de truc qui se trouve à 10-15 euros chez Castorama, et avec son ampoule E27, bien sûr, qui est, comme c'est un objet extrêmement rare et extrêmement compliqué, était à 48,60 €, et la lampe, elle était à 80 €.
Donc l'ampoule était à 48 ?
L'ampoule était à 48, sachant que moi, enfin je sais pas, on me laisse une demi-heure à peu près pour trouver des ampoules E27 à 48,60 €, j'en trouve au moins 40.
Attendez, moi je sais pas, moi si c'est ça, je vais les acheter à 5, ouais, et je les revends à ce truc-là à 48.
Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est
un
bon
métier,
ça. C'est un business qui marche, hein. C'est pas de problème, hein. C'est allô l'administration, est-ce que je peux être dans le catalogue?
Est-ce que voilà, je peux vous refourner des impôts à 48? Parce que moi, je vais les acheter. Ça me rappelle, vous savez, à Saint-Tropez, ça peut toujours rigoler. Vous avez les paysans locaux, entre guillemets, ouais, qui vendent des fruits sur le bord de la route.
Ouais.
Vous savez, comme ça. Bien et sûr. Puis vous les suivez pendant la journée, ils, ouais, vont tous au Carrefour les acheter, puis ils se mettent au bord de la route et ils, ouais, vous les vendent à 3 fois le prix. Bon, ouais, ça va, c'est pareil, quoi.
Ouais. Oui, c'est exactement pareil, sauf qu'ils font même pas l'effort de se mettre sur le bord de la route. Eux, ils sont tranquilles, ils ont juste leur catalogue, et voilà, ils peuvent mettre les ampoules E27 à 48,60 €, sachant que voilà, à ce prix-là, normalement, l'ampoule E27, enfin, elle fait le café, quoi.
Vous savez, je reviens à Warren Buffett. Alors, lui, il y a quelqu'un qui fait des réunions tous les ans pour expliquer comment il faut gérer son argent, qui est un type tout à fait remarquable. Il y a un type qui lui a demandé pourquoi le socialisme ne marche pas. Alors, il est répondu, est-ce que vous avez jamais fait nettoyer votre voiture de location avant de la rendre? C'est-à-dire que si c'est pas à vous,
ouais,
vous faites n'importe quoi.
Ouais. Bah oui, parce que forcément, vous êtes dans l'administration. Donc déjà, il n'y a pas vraiment de budget. Vous n'avez pas une exigence de rentabilité. Donc vous prenez le truc le plus cher, parce qu'en plus de ça, non seulement tout le catalogue est cher, mais en général, ils prennent toujours le truc le plus cher dans le catalogue pour être sûr que c'est bien le bon truc qui va pas casser. Sauf qu'en fait, il y a aucun rapport dans les catalogues entre le prix et la qualité du truc. Alors que dans le système capitaliste, oui, il peut y avoir.
Ce que je voulais savoir, c'est que les gars. Une corrélation. Qui achètent les acheteurs pour les trucs dans l'administration. Je voudrais bien voir les rentabilités qu'ils ont, eux, parce qu'ils doivent se faire acheter.
Ouais.
C'est-à-dire, et le type qui achète, bah oui, à l'intérieur de l'administration, il dit, cher ami, si je commande les ampoules chez vous,
ouais,
est-ce que vous prendrez ma fille dans votre société?
Ouais.
Donc, il doit y avoir une corruption là-dedans.
Bien sûr, surtout que le fonctionnement de ce truc-là, c'est fait à la base justement pour éviter la corruption. C'est-à-dire que pourquoi il y a un catalogue officiel, c'est pour éviter que, voilà, je sais pas, vous êtes dans l'éducation nationale ou vous êtes dans un hôpital et tout le matériel, bah, je sais pas, les ampoules E27, vous allez toutes les acheter chez votre beau-frère qui fabrique des ampoules E27. Et du coup, voilà, on organise un truc, toute une économie comme ça pour éviter ce genre de truc, on a les catalogues officiels. Sauf que évidemment, les catalogues officiels ne sont pas non plus exempts de toute notion de.
Vous pensez d'ailleurs à une corruption là-dedans.
Ah, oui, sûr.
Aux États-Unis, ils ont trouvé, par exemple, en faisant ce genre de remarques là, etc., que les vous savez, les sièges des cabinets que vous relevez comme ça, les machins,
ouais.
Vous avez déjà. Eh bien, je crois qu'ils se vendaient quelque chose comme à 7 000 $ dans le catalogue officiel.
Ah, oui,
quoi.
J'ai déjà entendu parler de ce truc, ouais.
Donc, c'est resté célèbre, les couverts de chiottes à 7 000 $.
Ouais.
Il y avait quelqu'un qui devait gagner quelques dollars sur les
coups. Ouais, j'espère qu'il y avait au moins un peu d'or dessus, parce que, je sais pas, un petit motif, quelque chose, parce que franchement, oui, c'est à 5 000 $.
Donc, tout ça, c'est des bêtises qui partent du fait que ces gens-là pensent qu'il n'y a que 3 produits à vendre, ou 4, ou 5, ou 10, ou j'en sais rien. Mais ils ne se rendent pas compte, dans le monde, il y a des dizaines de millions de produits.
Ouais.
Et qu'il n'y a pas un type qui peut comprendre l'ensemble du marché. Donc c'est simplement en faisant des erreurs à droite à gauche. Et ça me rappelle la fameuse histoire de Madame Khrouchtchev, quand Khrouchtchev était le premier secrétaire général du parti, qui était venu en France. Khrouchtchev était venu voir De Gaulle, je crois. Et on avait dit, on va organiser une visite. Elle avait dit, oui, j'aimerais bien aller aux Galeries Lafayette. Donc on l'a emmenée aux Galeries Lafayette. Elle a été aux Galeries Lafayette, elle est très contente. Et le lendemain, on lui a demandé ce que vous voulez faire aujourd'hui. Elle a dit, je veux retourner aux Galeries Lafayette. Parce qu'elle était persuadée qu'on avait organisé un scénario où il y avait plein de gens qui faisaient semblant d'acheter, mais qu'en fait, il n'y avait rien. Elle n'avait pas dû. Donc ces gens-là, ils organisent automatiquement une société de pénurie. Et dans leur tête, ils peuvent pas penser une seconde qu'il y a une autre possibilité.
Ouais.
Donc ce que vous disent ces gars-là, c'est qu'ils sont eux, leur but, c'est d'organiser une société où ce seront eux qui donneront les tickets de rationnement.
Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, ce sera les plus importants du monde.
Ouais.
Si vous avez le ticket de rationnement, bah, vous avez l'attention de tout ce qui compte dans la vie, quoi.
Et là, bah forcément, en plus de ça, voilà, ils se disent de toute façon, c'est avec l'argent de l'État, donc on s'en fiche, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Donc bon. Et
Nicolas, c'est Sarkozy.
Non, Nicolas, c'est la figure du jeune actif, quoi. C'est le cadre Nicolas, 30 ans, qui est cadre, je sais pas où, dans
et qui paye un maximum d'impôts.
Qui paye un maximum d'impôts et c'est vraiment c'est la base de tout le système social français, quoi. S'il n'y a pas Nicolas, tout s'effondre en une seconde.
J'avais entendu parler de la ménagère de 50 ans, vous savez.
C'est un peu la même chose, oui, c'est pareil.
C'est comme moi quand je parle d'épargne et que je parle de la veuve de Carpentras, quoi.
Oui, pareil. Voilà, exactement. Voilà, c'est pareil.
C'est l'archétype.
Voilà, tout à fait. C'est l'équivalent de Madame Watanabe au Japon. Voilà, c'est la même chose. Là, c'est Nicolas, 30 ans. Voilà. Et
j'y serai bientôt, bon.
Ah oui, bien sûr, j'ai pas encore tout à fait 30 ans, mais oui, dans quelques années, oui. Et on va bien passer par là. Et bref,
vous allez soutenir l'économie française à vous tout seul.
En tout cas, moi et mes semblables, on va faire ce qu'on peut. Et si on nous met pas tous les impôts que propose le NFP, ça peut peut-être tenir quelques instants. Et il faut savoir que, alors tout ça, c'est un système quand même très très ancré, parce que si vous décidez de votre propre chef, de votre initiative personnelle, sachant que la notion d'initiative personnelle est fortement interdite ou du moins déconseillée dans l'administration, et que vous décidez d'aller chez Darty pour acheter vous-même une lampe de bureau à 10 €, et que derrière vous présentez la facture, voilà, pour essayer de vous faire rembourser le truc, il faut savoir que vous n'avez pas de retour sur votre demande avant 4 mois, et que la plupart du temps c'est non. Voilà, donc au moins l'administration est extrêmement bien faite de ce point de vue.
Ça me rappelle, mon père était dans l'armée, il dirigeait des casernes et des trucs comme ça, il y a longtemps, et donc il avait une allocation d'essence pour l'année, vous voyez. Et si par hasard il en restait à la fin de l'année, après les manœuvres qu'il fallait faire, on envoyait des troupes ici ou là, quoi, ben, il était obligé de la brûler, parce que si il en restait à la fin de l'année, l'année d'après il en avait moins.
Ouais.
Donc ce genre de système, ça mène à des imbécilités rares, quoi.
Ouais. Et dernier sujet que je voulais évoquer, c'est le Doliprane.
Ah ben ça, c'est encore une connerie. Ça.
Alors ça aussi, on se dit, non mais... est-ce qu'on n'a pas plus urgent à faire ? Donc on a une marque étrangère, Opella, en l'occurrence, qui rachète la marque Doliprane. Et visiblement, la marque Doliprane, il ne faut absolument pas que ça parte. Et sachant que la molécule du Doliprane, elle est dans le domaine public et que le principe actif est produit en Asie.
En Asie.
Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas vraiment...
La valeur ajoutée qu'on a, c'est de le mettre dans des boîtes et de le mettre ensuite dans...
Voilà, exactement. Vous avez, je sais même pas où est foutu le petit truc en aluminium dans lequel ça se trouve. Même ça, c'est pas fait en France. Donc, je sais pas exactement ce qui est fait en France, mais enfin, à la fin, juste la boîte, elle est censée être française, mais tout le reste ne l'est pas. Et visiblement, c'est inacceptable. Et donc, l'État français annonce entrer dans le capital de la société, donc Opella. Elle rachète 1%. Pour entre 100 et 150 millions d'euros, pour avoir une voix au conseil d'administration. Quel est l'intérêt de ce truc ? À quoi ça sert ?
D'autant plus que Raoul, t'as l'air de dire que le Doliprane est une saloperie, mais enfin, j'en sais rien. Moi, je tire toute une série de mes informations confidentielles sur la qualité des médicaments de Raoul, donc je suis extrêmement... si vous voulez, c'est... Le vrai problème qui va se poser, c'est... Opina ou Lepa,
Opella.
Opella, bon. Bon, Opella, il rachète ça. Il rachète une opération de vente, de marketing. C'est parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée faite par la France là-dedans. Donc, maintenant, il se retrouve avec l'État français dans le même plumard. Ça doit les amuser moyennement. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que si jamais ça va mal, que Opella veut fermer l'opération française et fournir les Doliprane à partir de l'opération allemande, qu'ils ont sans doute. Ben, à ce moment-là, la France va dire « Non, je passe à 100% du capital et je vais garantir l'emploi. »
Ouais.
Et donc, le déficit budgétaire dont on parlait il y a 5 minutes va exploser parce qu'on va garantir un emploi de gens qui produisent des trucs non rentables.
Ouais.
Donc, c'est l'épithète, vous acheteniez le sommet de la connerie, quand le but des gens, le but d'un pouvoir politique, est de garder dans des activités dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas rentables. Mmh. Par exemple, je suis sûr qu'ils auraient racheté tous les fabricants intelligents quand on a fait les trains, quoi.
Ouais.
Puis ensuite, ils auraient fermé tous les fabricants de trains quand on a fait les bagnoles.
Ouais.
Donc, c'est bête, mais surtout, ça ne prend pas en compte le côté révolutionnaire du capitalisme qui est de la création destructrice. Mmh. Alors là, il y a quelque chose qui me fascine en ce moment, c'est que Musk vient de sortir un téléphone qui est, paraît-il, beaucoup mieux que le Apple et qui va vendre à $100. C'est-à-dire un dixième du prix d'Apple.
Il est très fort là-dessus pour faire l'équivalent de ce que font les autres, mais pour un prix vraiment très inférieur.
Il l'a fait pour les fusées, il l'a fait pour des tas de trucs. Donc, ça va être intéressant de voir la bagarre entre Musk et Apple, mais comme la différence de prix est de 10 pour 1 en faveur de Musk, et que peut-être d'ici... Musk, vous pouvez recharger votre téléphone avec une petite batterie, un petit écran que vous mettez sous le soleil et qui fait de l'électricité pour charger le téléphone. C'est marrant, il y a des gadgets comme ça. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que d'ici 5 ans, ils auront réussi à miniaturiser les écrans de réception des satellites. Vous savez que 70% des satellites qui tournent dans la Terre sont la
poussée. C'est SpaceX, ouais.
C'est SpaceX, c'est lui, c'est Musk. Donc d'ici quelques temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer le signal directement dans votre téléphone, vous n'aurez plus besoin de passer par un réseau Internet, ça arrivera directement chez vous. Et ça veut dire qu'Orange, SFR, tout ça, ils sont morts.
Ouais.
Donc je sais aujourd'hui, j'avais dit ça il y a 30 ans, en disant à partir du moment où l'Internet a commencé, j'ai dit, vous savez que la poste est morte, la poste avec les... Donc tous les gens qui travaillent, les facteurs et tout, ils sont foutus, donc on ferait bien commencer à s'en occuper tout de suite
bien
à l'Europe. Et ben aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'SFR, tout ça, c'est mort.
Ouais. Bah, SFR, oui,
ils sont tués par la dette, eux, c'est pour commencer, mais même Orange et tous ces trucs-là. Et ça veut dire aussi que vous prendrez un abonnement annuel monde.
Ouais. Oui, tout à fait. Il n'y aura pas de question en dehors de la France métropolitaine, de quoi que ce soit.
Et vous aurez accès à l'Internet partout dans le monde et vous n'aurez pas ces trucs, je me débranche parce que je suis à l'étranger, etc. Donc, encore une fois, ça va être une baisse des prix phénoménale dans tous les domaines de la communication. Donc, à la place de s'emmerder avec Doliprane, le gouvernement français ferait peut-être bien d'essayer de savoir quel genre d'entreprise devrait...
Par exemple,
dans ces entreprises-là, il va sans doute y avoir un développement gigantesque du logiciel que vous mettrez dans ces téléphones pour qu'il marche partout dans le monde. Donc, je veux dire, Ils en ont pas marre de rentrer dans le futur avec le derrière en avant.
Ah non, non, ils adorent ça. Ils font que ça.
C'est une mentalité de l'imagino, quoi.
Ouais. Oui, il y a eu un peu la même chose cet été avec Duralex. Duralex, voilà, ils font des verres. Voilà,
c'était tout, dans tout, la cantine, il y avait
tout,
des
Duralex. Tous les trucs qu'on avait dans la cantine, voilà, au fond, on voyait le numéro, on se dit, ah, t'as quel âge, voilà. Et bon, Duralex a du mal à être rentable. Bon, c'est pas très grave, hein. Ma foi, ils font des verres, c'est pas non plus, ils font pas des avions de chasse, hein. Enfin, je comprends pas vraiment où est le problème.
Ben, ils pourraient faire des verres de façon rentable si le coût de l'usine n'était pas deux fois plus important qu'il est en Allemagne où ils font des produits similaires.
Évidemment.
Mais donc nous, le problème, c'est pas dire Alex, c'est les transferts sociaux qui se passent par la
voilà, de l'entreprise. Ils se posent pas la question comme ça. Enfin, les politiques se posent pas la question comme ça. Les politiques se posent la question de combien il faut mettre pour sauver Duralex et donc sauver ses emplois. C'est complètement idiot.
On peut pas la sauver.
Et alors, je reformule quand même parce que c'était pas très clair sur le Doliprane. C'est Opella qui est une filiale de Sanofi qui est vendue à un fonds d'investissement américain. Voilà, c'était pas Opella qui rachetait la marque Doliprane, c'est Opella qui se fait racheter.
Le fonds d'investissement américain, il a racheté une rente qui existe. Et j'espère que le gouvernement français, ou plutôt que Sanofi, a vendu la rente à un bon prix.
Ouais.
C'est pas difficile de vous calculer une rente. Je sais pas si vous gagnez 5% ou 10% sur la vente de vos machins, là, de vos pilules. Vous en vendez je sais pas combien de milliards par an. Vous multipliez milliards par la marge brute que vous allez faire. Vous faites un calcul excompté sur 10 ans. Et vous dites, ça vaut autant.
Ouais.
Donc, j'espère qu'ils n'ont pas la vendu.
Donc,
on a échangé de l'argent. Et j'espère que Sanofi va prendre ce pognon.
Ouais.
Pour faire des recherches avec. Dans lequel ils développeront de nouveaux produits, sur lesquels ils gagneront 10 fois ce qu'ils ont vendu Doliprane. Doliprane, c'est une activité sans aucune croissance.
Ouais.
Zéro croissance. Oui. Mais une bonne rente qui tombe.
Pareil, il y a un laboratoire. Alors, il me semble que c'est aux Pays-Bas. Et là, j'avais le nom ce matin, mais là, le nom me vient plus en tête. Mais il y a un laboratoire aux Pays-Bas qui a sorti un médicament il y a pas très longtemps, et qui, en fait, c'est des sortes de gélules qui aident fortement à maigrir.
Ah, ben ça, c'est au Danemark.
Au Danemark, c'est pas aux Pays-Bas. Non, au Danemark.
Alors, ils ont pas autorisation de le vendre au Danemark, mais ça se vend aux États-Unis comme des petits pains.
Ouais.
Mais c'est très dangereux, il y a des effets secondaires qu'on connaît pas très bien. Mais par contre, vous maigrissez très bien.
C'est pas forcément l'idéal. Mais aujourd'hui, apparemment, ce truc-là constitue 3% du PIB du Danemark.
C'est ça.
Complètement fou, quoi.
Oui, parce que vous savez qu'il y a des crises d'obésité aux États-Unis énormes. Donc, les gens prennent ça. Alors, ce qui se passe, c'est que ça vous donne la germe toute la journée, donc vous bouffez rien.
Ouais. Et en plus de ça, vous êtes en déficit, quoi.
Et donc, j'en ai parlé à un médecin récemment. Et il m'a dit, oui, c'est vrai que ça marche, mais ça a des effets secondaires qu'on connaît mal. Et oui, c'est un produit danois, mais ce qu'il y a d'ailleurs rigolo, c'est que l'autorité de contrôle aux États-Unis a permis la vente de ce médicament. C'était un machin qui était fait à l'origine pour le diabète.
Ouais.
Et dont on s'est rendu compte qu'il faisait maigrir les gens de façon étonnante.
Ouais.
Et donc la capitalisation boursière de ce truc-là doit être absolument gigantesque.
Oui,
celui qui trouve un produit contre l'obésité aux États-Unis, il est celui qui en parle intelligemment d'ailleurs, c'est Kennedy, vous savez.
J'ai vu aujourd'hui par exemple, il veut changer la politique des fast-food sur comment par exemple on fait les frites. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 50, 60, 70, jusqu'aux années 90, et on faisait les frites dans la graisse animale. Et notamment de bœuf. Et depuis les années 90, on les fait dans les seed oils. Donc c'est, vous savez, tous les trucs de voilà. Et ça c'est pas terrible pour la santé. C'est notamment responsable d'une assez grande partie de l'obésité aux États-Unis, parmi d'autres trucs.
Mais... Ce que dit Kennedy, il dit que l'obésité aux États-Unis, c'est simplement que à partir des années 70-80, on a commencé à donner à bouffer de la merde aux Américains. Quoi.
Ouais.
Ouais. C'est ce qu'il dit, en langage convenable.
Ouais, c'est vrai, pour le coup, ça, c'est un truc qui me dégoûte un peu. C'est, vous voyez quand même, les rayons dans les supermarchés américains, la tête des trucs, on se dit mais c'est passé par combien de procédés chimiques avant d'arriver à ce résultat, quoi. Il y a combien d'intermédiaires entre le truc qu'on sort de la terre et ce truc-là.
Ce que vous devriez regarder, c'est j'avais vu un documentaire sur la façon dont McDonald's faisait la viande,
ouais,
pour qu'elle ait dans ses hamburgers.
Ouais.
C'est des espèces de machines, il y a des espèces d'énormes de rouleaux de viande compactés qui sortent comme,
ouais,
ça. J'ai pas dans mon hamburger, j'ai une quarantaine de vaches, quoi.
Oui, c'est un bon mélange. Ouais. Oui, c'est sûr. Pareil, tout ce qui est saucisses, tout ça, c'est, enfin, les saucisses industrielles, c'est la même chose.
Bah, c'est ce que disait Bismarck. Il disait ça de la politique. La politique, c'est comme les saucisses. Si vous aimez les saucisses, vous rentrez, faut jamais aller visiter une fabrique de saucisses.
Ouais.
Donc, ça aussi, c'est un des problèmes que nous avons dans le domaine politique, c'est que tous nos systèmes de contrôle de la pharmacie, tous nos systèmes de contrôle de la bouffe ont été capturés par les sociétés de pharmacie et les pharmacies et les sociétés de bouffe. C'est-à-dire que les gars qui sont chargés de ensuite, on les fait sortir de là, on les met au conseil d'administration d'une filiale, présidente aussi. Donc, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les trucs qui étaient censés nous empêcher d'être empoisonnés, c'est dans les mains des empoisonneurs. Donc, ce que dit Kennedy, c'est qu'il faut reprendre le contrôle des trucs de contrôle.
Ouais.
Et reprendre le pouvoir à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Et il n'y a pas que dans l'industrie militaire, ils sont aussi dans toutes les industries. Donc, le vrai problème de la démocratie, c'est maintenant comment on se protège contre ces immenses sociétés oligopolistiques qui ont pris le contrôle des outils de contrôle de toutes nos démocraties, quoi.
Ouais.
C'est pas évident.
Oui, c'est sûr. Pour le coup, c'est vraiment un gros problème de santé publique aux États-Unis. Parce que derrière, ça provoque un tel nombre de problèmes de santé, c'est juste complètement dingue, quoi. Donc voilà, on arrive quand même au bout d'une grosse heure d'enregistrement. J'aurais voulu reparler un petit peu des élections américaines, mais du coup, ce sera pour la semaine prochaine.
Ah, aussi, on s'est fait engueuler sur ce qu'on a dit sur l'Israël.
Ah oui, sur l'Israël, bah normal, hein, je m'y attendais.
Moi, je m'attendais au pire, mais j'ai pas été déçu, quoi.
Ouais. C'est sûr, c'est pas le sujet le plus
consensuel.
Consensuel, oui, c'est clair. Alors bon, voilà, je m'attendais à ce genre de réaction, bon, ma foi.
Et puis, comme je dis toujours, il n'y a pas de plus grand plaisir dans la vie que d'être insulté par un crétin, quoi.
Oui. Oui, oui. Et puis, de toute façon, moi, j'ai envie de dire, à chaque fois, on donne notre avis, on n'oblige personne à être d'accord avec nous.
Bon, vous n'êtes pas obligé de nous regarder.
Vous n'êtes pas obligé de nous regarder. Vous pouvez arrêter à 25 minutes 30 aussi, si vous avez envie, voilà. Ma foi, c'est assez libre. Je suis pas forcément...
On vous donne les arguments qui nous amènent à la conclusion à laquelle on arrive. C'est-à-dire, on vous dit pas, on n'utilise jamais l'argument d'autorité. On n'utilise jamais « vous me croyez parce que je suis le plus malin ». Non, on dit simplement « voilà ce qui nous amène à penser ce qu'on pense et maintenant vous en pensez ce que vous voulez ». Mais ce n'est pas la peine de nous insulter.
Tout à fait. Donc voilà pour cette émission, tout simplement. Je vous remercie bien sûr pour votre attention pour ce délai d'opinion. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Oui, d'ailleurs ça ralentit, on a du mal à arriver à 400 000 là, faut faire un effort là.
Ça patine, donc faites un petit effort quand même pour la communauté, serrez la ceinture, après tout c'est la crise. Et puis
achetez le livre, n'oubliez pas d'acheter le livre aussi parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Hein.
Oui, et puis parce qu'en plus de ça, c'est pas juste un achat, c'est une forme d'investissement aussi, en quelque sorte. Et puis c'est un objet, je pense que vous serez content de le posséder même dans 20 ans. Je pense que ce sera toujours pertinent. Et puis je trouve que c'est un très bel objet.
Dans des périodes difficiles, il n'y aura pas assez de papier, il n'y aura plus de livres.
Voilà,
on va vivre dans une période de développement de l'intelligence remarquable.
D'ici 10 ans, pour refaire ça, il faudra mettre 30 balles. Hein,
c'est ça. Et puis il n'y aura pas assez de papier, puis il y aura. Ça m'étonnerait que j'ai des quotas de papier pour mes écrits. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est
que il y aura des gens intelligents comme ceux qui ont été là dans le, qui feront des quotas pour les de papier pour les gens qui.
Bien sûr, il y en a qui proposent même de faire des quotas pour les téléchargements en ligne. Donc ça va être pratique aussi pour tout ce qui est tous les monteurs de vidéos par exemple qui doivent télécharger ou uploader des montants absolument astronomiques avec des vidéos en 4K. Je pense que voilà. Ça va leur parler.
Non, mais
on sent
qu'ils veulent quand même arriver à une discussion approfondie.
Oui, tout à fait. Ils savent de quoi ils parlent.
Ils savent de quoi ils parlent. Ils veulent créer une concurrence, nous sortir à la vérité, quoi.
Bien sûr,
mais
bien
ils
sûr.
Ont la vérité, ils ont pas besoin de concurrence. Enfin, il faudrait que je comprenne quelque chose un jour quand même.
Mm-hmm. Enfin voilà, pour cette émission, bah, je vous dis encore une fois un grand merci. Et puis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau Délit d'Opinion.
Merci beaucoup.